filles, les hommes, c'est pas des mecs bien.
Bonsoir à tous, Tech Patate, saison 11, part 2, bientôt la fin. Bonsoir JB.
Et bonsoir.
Bonsoir l'abeille.
Bonsoir.
Bonsoir Seb.
Bonsoir Lionel.
L'équipe est au complet, pas d'invité ce soir. On en a déjà de calé pour mercredi prochain. On fait ça à l'ancienne, tout le monde est prêt avec sa petite chronique et on n'oublie pas le morceau qui envoie le bousin. Let's go.
Major Lazer.
Funny floor.
Laser. Lady, get in line, let me see your best, that's why. Lady, get in line, let me see your best, that's why. You be in line, let me see your best, that's why. Move every part of your spine. Don't come, give me some of your, let me give you some of mine.
Et c'est à nous.
Hey, ça faisait longtemps, hein.
Ben oui.
Un son comme ça que tout le monde, je pense, connaît, le petit gimmick là, que Seb va nous chanter. Celui-là. C'était.
Il est fair play.
Il a fait bien. Extrait du premier album de Major Lazer. Major Lazer, son premier album, c'est sorti en
92.
2008. Moi, j'aurais dit 98.
Très bien. 2009.
C'est pour JB.
J'étais pas si loin. Major Lazer, le projet de Diplo. Diplo qui venait juste de faire les albums de Santigold et autres.
Hein. D'accord.
Il en a fait un paquet. Hein. Et Diplo, gros producteur électro à la base et qui est parti sur Major Lazer pour faire du electronic dance hall.
Donc ce beat là, ce petit sample là qu'on a entendu, on l'entend sur d'autres morceaux. Moi ça me fait penser à un morceau en particulier.
Vas-y, dis.
Un morceau de Stromae. Human Law. Voilà. Et vous, okay. Vous irez écouter et vous me direz, mais c'est exactement ça. Oui. Donc je pense que c'est un soit. Stromae s'est sorti après, mais parce que c'est sur l'album Racine au Carré, donc ça a 10 ans, voilà. Donc après, faites vos calculs.
Et c'était. Ouais, bah, c'est ça. C'est, celui-là, tu sais qu'il. Enfin, il existe depuis longtemps, attends, je le regarde. Run the World, Beyoncé. Who Run the World?
Ouais, mais il est moins.
C'est celui-là,
ouais, okay. Revient, je l'ai moins écouté.
Il revient pas, c'est en 2011.
Je n'ai pas l'album.
Ouais. Ah ouais, mais oui, bah oui, mais je te le dis. Entre autres, parce qu'il est un peu partout. Et en fait, donc c'est Diplo qui a sorti ça, je sais pas où. Et c'était ce morceau, Pointe de Flore, et en featuring avec Vibes Cartel. Allez, on cite tout le monde comme ça. Et l'album de 2009 de Major Lazer, quoi, voilà. Et l'album s'appelle Guns Don't Kill People, Lasers Do. Sébastien, traduction ?
Et non, tu peux répéter ?
Mais voilà, ouais, voilà. Tu n'as pas écouté.
Non, j'ai pas compris avec ton accent.
Non, tu n'as pas écouté. Tu regardais à gauche quand je suis à ta droite. Donc, tu vois, déjà. Les Guns Don't Kill People, Lasers Do.
Bah les flingues ne tuent pas les gens, mais les lasers le font.
Ouais, voilà. Tu vois que tu arrives. Donc finalement, tu m'aurais regardé, tu aurais compris le premier coup.
Ouais, mais là, tu t'es appliqué, je trouve.
Non, oui, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil.
Je ne suis pas du tout de mauvaise foi.
C'est en podcast demain, vous pourrez écouter. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà, histoire de ressortir les vieux sons, c'est parfait.
Let's go, c'est à mon tour. Ce soir, je ne vais pas vous parler musique.
Tu vas pas nous parler musique.
Je vais vous parler musique. Okay. Je ne vais pas parler vin, je ne vais pas parler bière, okay. Je ne vais pas parler fromage, je ne vais pas parler gastronomie. Je vais parler musique. Voilà, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps et j'ai une question. Pourquoi arrête-t-on d'écouter de nouveaux artistes en vieillissant ?
Ah, moi c'est pas le cas.
Toi c'est pas le cas ?
Je vis peut-être pas encore assez. Mais...
tu découvres beaucoup d'artistes encore nouveaux. Tu dis waouh ouais, ça c'est trop bien.
Ouais, des choses que j'aime bien, ouais.
Mais la même proportion qu'il y a 20 ans ?
Non, certainement pas.
On est d'accord. Mmh. Bon, l'abeille, on va le mettre à part. Je pense que c'est un extraterrestre et puis il a peut-être un syndrome Peter Pan qui traîne. Mais en tout cas, bref, ce n'est pas parce que c'était mieux avant. Mais selon plusieurs études, devenir parent est l'un des moyens les plus sûrs pour devenir musicalement ringard. Désolé, hein. Okay. J'annonce. Les artistes d'aujourd'hui, alors c'est devenir parent ou... passer les 30 ans, hein, c'est pas... Y a... Voilà, mais c'était écrit ainsi dans l'article que je vais vous lire ce soir. Les artistes d'aujourd'hui sont nuls, rien ne vaut la musique de ma jeunesse. Si vous êtes trentenaire et que la musique est votre passion, vous avez forcément déjà entendu cette phrase. C'est prouvé statistiquement. En moyenne, on arrête de découvrir des nouveaux talents très tôt dans notre vie. Selon l'étude française dévoilée par Deezer en 2018, l'âge de cette paralysie musicale est de 27 ans et 3 mois.
Ok.
Donc on est d'accord. Tous paralysés, hein. Non, on est d'accord ?
Oui,
on est d'accord. 65 des personnes interrogées restent coincées dans leurs ornières musicales et n'écoutent que des morceaux qu'elles connaissent déjà. 41% avouent même qu'elles n'ont aucune intention d'écouter de la musique sortant de leur zone de confort. Des chiffres confirmés en 2015 par une étude menée sur les habitudes d'écoute sur Spotify, indiquant qu'on arrête d'écouter de nouveaux artistes à l'âge de 33 ans en moyenne. Bon là, voilà, Spotify, Deezer, bon... Donc 33 ans, il te reste un petit peu plus de temps. Et pour les autres, c'est foutu.
Un tout petit peu.
On est d'accord ?
Oui.
33 ans ?
Ça fait un moment que c'est foutu.
Non, mais normalement, tu dis la Gironde.
Hein ? Oui, alors si tu dis 33, mais si tu dis 33 ans.
Quelques années plus tôt, c'est pourtant l'effervescence. Les mêmes études confirment qu'au début de la vingtaine, on passe beaucoup de temps à faire des découvertes musicales. Pour 10 heures, ce pic musical intervient à 26 ans et 4 mois en moyenne en France. À cet âge, 66% ont déclaré avoir écouté au moins 10 nouvelles chansons par semaine et 55% ont cherché au moins 5 nouveaux artistes par mois.
D'accord.
Mais pourquoi ?
Mais oui, oui.
Rien de surprenant à cela. La jeunesse est considérée comme la période pendant laquelle on se forge une identité sociale et les goûts musicaux sont l'un des marqueurs les plus forts de ce que nous sommes en tant que jeunes adultes.
On va en soirée quoi, enfin c'est un peu ce... Non ?
Ouais, Redis, date de quand ton enquête là ?
Alors il y a deux études, l'étude de Deezer et là les chiffres confirmés en 2015 par Spotify. Okay. Voilà.
Spotify. Parce que moi je nuancerais le truc.
Mais bien sûr.
Parce que désormais, on découvre plus de la musique, on se laisse porter par un site de streaming.
Oui.
Donc déjà, oui, on découvre, sauf qu'on retient pas.
Oui.
Parce qu'on lance un morceau qu'on aime bien, celui qui nous le marqueur que t'as toujours écouté, que t'aimes, et ensuite tu laisses faire le site de streaming. Maintenant, t'achètes plus de la musique, tu n'achètes plus. Enfin, t'achètes presque plus de CD ou de vinyle, sauf moi et d'autres, moi, d'autres débiles comme moi. Et tu fais quoi? Tu vas sur Deezer, Spotify, Tidal, Apple, machin. Et tu mets un morceau, et quand tu cherches un puis là tu cherches un morceau que tu connais ou pas, tu le mets, et derrière le site t'emmène sur son petit algorithme et te balance sur tous les morceaux du monde. Par contre, tu vas pas, si t'es pas déjà intéressé par découvrir de la musique, comme tu le dis, bah tu vas écouter plein de trucs, et puis tu feras ah ouais, ça j'aime bien, mais c'est tout.
Mais moi, mais même
ça,
pas,
ça
moi,
de la musique, enfin de la musique que je tape, quoi.
Alors moi même pas, je vais te dire comment je vis actuellement, alors que j'ai pourtant adoré découvrir de la musique et avoir fait l'effort avec joie et passion de trouver des nouveaux groupes, des nouveaux titres à passer dans les différentes émissions que j'ai pu avoir sur cette chère radio qui est Graffiti. Aujourd'hui j'écoute Graffiti. Voilà. Et après, quand je décide d'écouter un titre, je choisis le titre que je vais écouter, et j'ai mes playlists, et j'écoute mes playlists, et basta. Ouais. Je ne me laisse pas. Non, dès que ça part sur un autre titre, j'éteins.
Je... Que toi, ça veut dire que tu ne découvres plus.
Ah non, mais je suis honnête, mais complètement, je te l'accorde. Je te l'accorde.
Et c'est vrai,
c'est pour
que...
ça que je ne suis pas programmateur à Graffiti.
Parce que maintenant, c'est vrai que personne, sauf les fans de musique et dans des styles. Suivent des webzines pour se tenir au courant de ce qui sort.
Et mais heureusement, c'est très bien, mais c'est juste que voilà.
Mais
c'est vrai
personne
qu'il y a eu
ne va se dire tiens, qu'est-ce qui est sorti, je vais aller voir. C'est pas dans la Fnac que tu le sauras. Hein. Espace culturel, Leclerc, etc.
Mais et même, je veux dire, avant.
Si tu te renseignes pas ou en regardant, ce que je sais même, enfin, est-ce qu'il y en a qui le font, les places de concert à vendre.
Oui, mais c'est ça.
Non, moi, tu me dis les places qu'il y a à vendre en général. Oui. Donc voilà, ouais. T'es un peu mon streaming, tu vois. Concert.
Même si tu vas Fnac, Leclerc, sur les mêmes, hein, ceux qui vendent des places qui l'affichent un minimum. Hein,
ouais.
Sauf que les places qu'ils vendent, c'est du grand public. T'as pas de niche.
Ouais.
Et c'est vrai que on n'a plus d'intérêt. Enfin, on n'a plus. De moins en moins de personnes sont intéressées. La musique, c'est 181 morceaux par jour sur les sites de streaming qui sont déposés.
Mmh. Combien de 180 000 ?
181 par jour. Ah, donc voilà, t'imagines ? Voilà. Ah, ouais. Donc,
dont 179 000 qui ne seront jamais écoutés.
Et exactement. Je vous rappelle Forgotify. Allez sur le site Forgotify pour faire un petit stream sur un morceau qui n'a jamais été écouté sur n'importe quelle plateforme. J'en avais parlé. Faites un tour. C'est assez drôle. Et en fait, c'est une espèce de roulette, chat roulette, je ne sais pas si ça existe encore, mais le même principe, roulette russe, et ça te sort un morceau qui n'a jamais eu d'écoute. Et comme ça, tu vas lui en mettre une.
Ça se trouve, il est vachement bien, mais personne n'a
écouté. Bien sûr. Oui.
Alors, s'il est vachement bien,
ouais.
Non, je pense que ça aurait été vu. Mais tu vois, donc, il faut faire le tour. Donc, 181 morceaux par jour, donc c'est évidemment derrière comment tu veux. Si tu n'es pas intéressé au minimum par la musique, tu peux écouter de la musique et laisser tourner. Hein.
Mais d'un autre côté, il y a Graffiti pour ça.
Et c'est ça.
Si tu m'autorises, je vais finir ma chronique la veille. Grosso modo, on se prend de passion pour un genre et quelques artistes et on en déteste d'autres. Il y a ensuite des bonnes chances que ces préférences nous suivent pendant toute notre vie. C'est ce que l'étude menée sur les données de Spotify appelle le taste freeze. TASTEFREEZE.
Le goût figé.
Voilà, merci. Oui. En entrant dans la trentaine, nos goûts musicaux.
Et là, t'as compris son accent pourri quand même.
Non, mais ça me faisait souffrir, donc j'ai traduit tout de suite.
Voilà, moi, j'ai vu sa tête, il a souffert. Je continue. Nos goûts musicaux ont suffisamment mûri pour devenir figés. Et on ne prend généralement plus la peine de se tenir au courant des nouveautés, car il y aurait, paraît-il, des priorités plus importantes dans la vie, comme travailler, se caser, engendrer une descendance, trouver à manger, repeindre la cuisine.
Le sermon du curé de week-end dernier, excuse-moi.
La même étude montre à quel point, en vieillissant, on s'éloigne de plus en plus des artistes populaires de l'époque pour privilégier les vieilleries réconfortantes de notre jeunesse. Mais pourquoi ce phénomène est-il propre à la musique ? Après tout, ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de découvrir des nouveaux romans, des nouveaux films ou des nouvelles séries.
C'est
exactement.
Oui.
Plus c'est que tout autre art, la musique et toutes les pratiques qui y sont associées, comme aller faire des folies dans les concerts ou les festivals, sont rattachées à la jeunesse. Et évidemment, ces activités sont peu compatibles avec la vie que l'on peut avoir après 30 ou 40 ans. Selon l'étude, pour certains, pour la majorité, effectivement, heureusement qu'il y a... Puis après, il y a des gens... Non, oui, c'est ça, voilà. Voilà, tout ça, ça continue. Je vous partagerai l'article, le refil, et j'ai encore plein de choses à vous dire. Mais je voulais d'abord vous passer des musiques. Donc moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, voilà.
Ah bon
Non, c'était pas aujourd'hui, c'est passé. Excuse-moi, pas Lionel, c'est le 22 avril.
Exactement. Hein, mais bon. Pardon. Donc, mais actuellement,
je tiens à dire que j'ai oublié ton anniversaire. Hein, donc, je suis assez fier.
Voilà, bravo. actuellement, donc j'ai 43 ans. Ça fait donc 17 ans que je suis resté figé, et je vais bientôt fêter mes 20 ans de radio, hein, Sébastien. Ah. Attention, en septembre, je fêterai mes 20 ans à Graffiti. Et il y a 20 ans,
moi, je ferai mes 19.
Il y a 20 ans, j'écoutais quoi ? Je passais quoi ? Je passais un groupe qui s'appelle iTone. Voilà. Et iTone, donc groupe de dub de la scène lyonnaise, qui existe toujours, mais il y a un side project dans le groupe. Et donc il y a deux personnes du groupe qui ont monté un autre groupe qui s'appelle Twinkle. Et ils ont sorti quelques morceaux récemment. Twinkle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut peut-être rien dire.
Si, si, ça veut dire quelque chose.
Twinkle,
j'ai déjà entendu Twinkle.
C'est un mot qu'on retrouve souvent, ouais.
C'est pas le nom de personnage à la con dans les dessins animés américains.
Il y a probablement une autre référence. Twinkle, Arcology, c'est sorti tout récemment.
Sentiment.
C'est forcément chez Jarring Effect. On écoute ça. Voilà, je reste dans mon réconfort. C'est un nouveau titre, mais alors on est complètement dans la sauce de ce qui se faisait il y a 17 ans. Voilà, c'est mon petit plaisir personnel. À tous les quarantenaires figés, ces cadeaux,
quadra,
c'est pour
quadra.
Vous. Let's go.
Les quadras, on dit.
J'ai dit quoi ?
Les quarantenaires.
Les quadras. Et je vais reprendre sur le morceau parce que j'ai un deuxième morceau en plus à vous passer. Voilà, je suis désolé, je vais.
T'en as un autre de dub parce qu'on est chaud là, on est bien.
C'est pas tout à fait dub, vous allez me dire. Donc à l'instant c'était Twinkle, excusez-moi, je me suis trompé de sens pour le casque, et c'était le titre Arcology. Donc Twinkle, ce sont deux membres de Hightone qui ont monté un side project. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site de Jarring Effect. Et je pense que si vous suivez Hightone sur les réseaux sociaux, vous pourrez trouver plus d'infos sur Twinkle. Il y a deux titres de sortie pour l'instant, c'est tout. Il n'y a pas d'album, il n'y a pas plus d'actualité que ça. Ça
c'était
va venir.
Juste pour voir si les gens aimaient bien.
C'est ça, exactement. Moi j'ai beaucoup accroché sur ce morceau, un petit peu moins sur l'autre morceau. Mais voilà. Et donc j'ai un autre morceau à vous passer parce que voilà, j'ai donc 43 ans toujours et je découvre aussi d'autres musiques quand même, mais j'en suis à deux, tu vois, depuis le début de l'année. Okay. Et donc ce soir, voilà, je voulais vous les partager. Le deuxième groupe s'appelle Rum One et le titre s'appelle
C'est un artiste.
C'est un artiste beatmaker, DJ.
Enfin, un artiste peut être un groupe, mais
ouais. Bref, je vais vous passer un titre de Rum One. Le titre s'appelle Horizon et je vous en parle juste après. Et donc à l'instant, Rum One Horizon. Voilà, je vous ai partagé toutes les découvertes que j'ai eues depuis ce début d'année avec vous. Et donc Rum One, quand même, si je le passe, c'est parce que ça passe le vendredi 21 juin à La Roche-sur-Yon pour la scène Graffiti. Donc place Jacques Chirac, quartier des Halles à La Roche-sur-Yon.
Pour la fête de la musique.
Pour la fête de la musique, exactement. Oh, Rum One,
d'accord.
En live. Voilà, donc avec ses machines et tout. C'est vraiment vendu comme du live hip-hop. Voilà, donc
il refait en direct le morceau.
Il renvoie des bouts et tout.
Énorme.
Ça. Je pense que ça va être vraiment très 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 sympa. Je suis vraiment très curieux de voir. Allez faire un tour sur son compte Insta, on le voit jouer un petit peu avec ses machines. Rum One, il est signé chez Kitchen Beats. Kitchen Beats, on les connaît bien, c'est entre autres Mickey, que l'on entend aussi dans Peter et Steven et que l'on entend aussi dans The Kitchen le vendredi soir. Voilà. Bonjour à tout le monde, à tous les copains. Et il est 21h25, je vous laisse un petit peu de place pour le reste de l'émission. Désolé d'avoir été un petit peu long.
Mais non, pas Lionel, mais c'est parfait.
Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Et Romouane, il sera tout seul sur la scène de graffiti?
Alors Romouane passera
pour
à 23h.
Ah,
on commencera plus tôt, on aura Los Colochos. Los Colochos dedans, alors c'est pareil, il y a deux membres de Ireke, qu'on a vu l'année dernière, qui ont monté un autre groupe avec deux autres personnes. Et donc là, on est plutôt cumbia, mais plutôt acoustique.
Ça va gâcher sur notre scène cette année. Hein.
Alors, faut qu'il fasse beau, s'il vous plaît.
Non, n'en parle pas. Ne dis pas ça.
Bref, en tout cas, voilà, ça va être chaleur au niveau de la musique pour ouvrir la soirée. Et après, on aura Macadam Hirsute, groupe de guinguette and roll, comme ils se définissent. Il y a de la guitare, il y a de l'accordéon, il y a de la chanson française, il y a un petit côté punk à la Ruquetanou, on va dire, même très très marqué. Voilà, pour une fête de la musique, ça marchera très bien.
C'est une très belle prog.
Franchement, il y en a pour tout le monde.
Ouais.
À l'image de Graffiti.
C'est ça.
Voilà. Alors, qui veut en donner un petit peu plus encore à nos auditeurs? Qui est prêt? JB, je te sens chaud.
Bah écoute, oui, bah, moi je suis prêt.
Je te donne la parole.
Je suis prêt comme toi, Seb.
Jean-Jacques Goldman.
Ouais, mais j'ai pas les refs, je suis désolé.
Je te donne.
Ah, d'accord.
Donc, moi je vais pas faire de crise sur mon âge et sur la musique que j'écoute.
Non, t'es trop jeune.
Je serai bientôt moi aussi has-been dans la musique, visiblement.
Tu sens le déclin arriver ou pas?
Non, ça va pour le moment. Mais moi je suis, comme disait l'abeille, je ouais. suis en fait un.
Te trompe pas de personne quand même.
Vous avez le même âge, vous êtes grisonnant, vous êtes.
Ah, mais musicalement, tu vois, moi j'ai figé.
Ouais, non,
j'ai figé.
Non, l'abeille, c'est un monstre.
J'ai su écouter au-delà d'Ayton.
Ouais, non, mais t'es
alors. J'ai écouté Millissimo après.
T'es super calé quand même. Bon, bref. J'avais commencé à écrire une chronique cet après-midi où en fait.
Sur l'abeille.
Non, non, quand même pas.
Ça s'appelait L'abeille, mon héros.
Ouais, non, pas encore. Pas encore.
Il y a des fleurs, les gars.
C'est trop. Et en fait, vous auriez pu être mes invités, mais je trouvais pas assez peaufiné. Du coup, voilà, je suis passé sur autre chose. Je voulais vous faire parler.
Le mec est humble.
Non, mais je voulais vous faire parler, et puis ce sera pour une prochaine fois.
C'est vrai qu'on parle pas d'habitude.
Donc la dernière fois, j'ai fait sur le café.
Ouais.
Ça fait digérer. Et en fin de repas, qu'est-ce qui peut accompagner un café en parallèle?
Le digestif.
Eh ben oui, et plus particulièrement
l'Armagnac.
Le rhum,
un
gros morceau quand même.
Rhumoine.
Ouais, c'est oui. Ça, c'est la transition est tout due.
Ben ouais, la transition est tout due. Ouais, c'est quand même un gros morceau en France quand même, le rhum. Enfin, moi j'ai souvenir quand même à table, ça buvait du rhum à la fin des repas de famille.
Avec modération.
Avec modération, bien évidemment. Et souvent, c'était pas très bon. C'était du Negrita des fois.
Ah oui. C'était pas du rhum pour faire des gâteaux de Negrita à l'origine.
Bah même les pâtes à crêpes n'en veulent
d'ailleurs,
pas.
D'ailleurs, question bête que je me suis posée. Bah, tu vois, il n'y a pas longtemps, Negrita, ils ont gardé le nom.
Oui.
Ok.
Oui. Par contre, Plantation change de nom.
Ah, il va s'appeler
Plantalei. Plantalei. Plantarei.
Pourquoi?
Mais pour le passé colonial, Plantation, ils veulent arrêter. Ouais.
Mais ce que ça fout, enfin, une plantation, c'est une plantation, non?
Ah, ouais, mais non. Mais bon, ils changent de nom.
Bref. D'accord.
Donc, moi, je me suis attaqué au rhum ce soir. Voilà. Alors, vous avez.
Monsieur Técure, d'ailleurs, je viens de finir la dégustation.
Et donc, non. Avec modération, bien sûr. Mais alors, du coup, c'est un sacré morceau parce que ça. Alors, j'ai regardé tout l'historique, ça remonte quand même à loin, quand même, toutes ces histoires.
C'est fort pour trouver des trucs dès que ça fermente et que ça fait de l'alcool, souvent il a pas perdu trop de temps.
Ouais, complètement, ouais. Donc ça vient du coup de la canne, bien évidemment. Donc on a deux types de rhum dans le monde, on a l'agricole et ensuite tous les rhums de mélasse. Donc les agricoles sont propres aux Antilles françaises, donc en 100% pur jus de canne.
Okay.
Et ensuite la mélasse, donc c'est le jus de canne qu'on fait chauffer. On a une mélasse noire qui se forme et on l'allonge avec de l'eau, des levures et on a les rhums de mélasse en fait.
D'accord,
tout simplement.
Okay. D'accord.
Donc les rhums de mélasse, c'est à 90% dans le monde. L'agricole, ça représente rien. C'est...
Ouais. D'accord.
Ouais. Les Antilles françaises.
J'aurais dit l'inverse. En fait, nous, c'est qu'on a influencé. Ouais.
Nous, on consomme. C'est nos Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, Réunion. D'accord. Voilà. Okay. Tout simplement. Donc rhum en français, ron en espagnol, et ensuite rhum R-U-M en anglais. Donc on part toujours sur une base de blanc, et ensuite vieilli en fût, il devient ambré naturellement. Voilà.
Ok.
Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on arrive sur le truc. La canne vient donc de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Elle a été introduite dans les Antilles par Christophe Colomb en 1493. Donc ensuite dans toute l'Amérique du Sud. Donc ça, il y a quand même un sacré bout de temps en fait que ça existe. Mais les premières traces écrites remontent à 1688 à Barbade. Voilà. Oui.
À Barbattre.
Barbador.
Le Puy du Fou a raison alors, tout part de là.
Non.
Ah d'accord. Ok.
Non, on n'y croit pas. Et en France, en 1722, les premières traces dans les Antilles par le père Labat. Donc qui est une marque de rhum. Encore
tu m'as
aujourd'hui.
Père Clément encore.
Non.
Oui, c'est ça. Non. Père Labat, ouais. Ça existe encore.
Ouais, Père Labat, ouais, ça existe
ils
encore.
Ils font deux bouteilles par an.
C'est non, mais c'est super bon en plus. Hein. C'est vraiment une très bonne marque.
Attends, mais
oui,
chance,
j'en ai
toi.
Goûté, ouais. C'est vraiment
après,
top.
Après, le café digéré par les peuples, je sais plus comment ça s'appelait ces bestioles là.
Oui, le Copilouac, le Père Labat.
Ah oui, c'est vrai.
Les capybaras.
Tu vois, l'abbé est en train d'en regarder.
Le Père Labat et la BAT.
Ouais, ouais. Et okay. C'est franchement, c'est vraiment très très bon.
Rhum à 59 degrés.
Ah ouais, alors sur le blanc, mais après t'en as qui sont vieillis, qui sont un peu plus en bas.
42.
Ouais. De base,
c'est de Marie
on reconnaît des vertus médicinales au rhum.
De base,
voilà. Et c'est là où c'est un peu parti en vrille. C'était pour éviter le mal de mer aux marins, tout simplement.
Vas-y, continue, je te parlerai du Père Labat brut de colonne après.
Il distribuait jusqu'à 1 millilitre de rhum aux boucaniers et autres navigateurs, quand même, sur les bateaux.
Par jour par
ouais, ouais, d'accord.
Par
jour. Ah ouais, wow. C'était des rations d'un demi-litre, ouais, quand même.
Bon, un demi-litre, ok.
Ouais, contre le mal de mer, donc c'est vrai que quand tu tangues plus que le bateau, je pense que tu c'est vois ça, plus ça, trop
c'est
le...
Les... C'est marrant, ouais. Parce que tous les alcools ont une histoire pour faire oublier les choses aux gens. Ouais. Vous savez, on n'est pas du gin, ou à Londres, là, c'était pour...
Oui,
pour les achever. Et là, c'est... Pareil pour envoyer les soldats à la guerre, il les faisait boire, enfin voilà.
Et en plus,
les mineurs aussi. Hein,
non, puis en plus, après, il disait, tu vois que t'as trop bu, t'as vomi. Il se rappelait plus qu'il était dans un bateau. C'est mnémotechnique, hein.
Ouais. Bon, du coup, ils ont décidé de l'allonger avec de la flotte. Ça s'est transformé en Evirum, qui est encore une variété de rhum qui existe aujourd'hui sur du rhum blanc.
Ok.
Parce qu'il y avait trop de problèmes, il y avait beaucoup trop de bagarres sur les bateaux avec l'alcool. Et le nom du rhum vient de là, du coup. Alors là, je me suis fait une dose d'histoire personnelle. Ça vient d'un dialecte anglais, de sud-anglais, le Devon. Et en fait, c'est, les gars disent rumbustion, pour dire une bagarre.
Ah. Ok.
Et comme ça partait de base du rhum, ils ont abrégé, c'est devenu rhum. Bon alors c'est un peu obscur, mais quand même l'étymologie du mot viendrait d'ici.
Bon.
Voilà. Ouais, je me
Peut-être
suis.
Que le gars qui a inventé l'histoire avait bu un petit peu de rhum, ouais, justement.
C'est probable. Tu vois. C'est probable. On s'en servait de monnaie d'échange en Afrique contre des épices, du café et malheureusement l'esclavagisme aussi à l'époque. C'était une monnaie d'échange. Bon, c'était pas très glorieux, mais c'était comme ça. Les Antilles, très peu dans le monde du coup. La Martinique, première appellation à avoir une appellation d'origine contrôlée en France. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Et au Brésil, je sais pas si ça vous parle, il y a un dérivé du rhum, c'est le cachaca.
Ah, la cachaça.
J'ai oublié la CDI. La
cachaça.
Ouais. Alors, qui peut être agrémenté avec du citron vert, du piment ou des fruits par-dessus.
Mais qui n'est pas produit tout à fait pareil.
C'est pas produit tout à fait pareil. En fait, le vesou, donc le jus de canne, nous, on le distille nature. Eux, ils le font chauffer, mais ça ne se transforme pas en mélasse. En fait,
mais oui, mais il y a une, enfin, il y a un cocktail. Moi, j'aime
beaucoup la cachaça.
Enfin, c'est comme un mojito, mais avec une cachaça. Ça porte un autre nom, cachaça mojito.
Une marita,
cachato.
Là, ça me trouve mojito à la cachaça.
Donc après, bon voilà, il y a tout l'art de la mixologie.
On est bête. C'est pas comme si on connaissait pas des fois dans les cartes de cocktail caipirinha, c'est pas marqué.
À l'époque, je buvais beaucoup de caipirinha, moi, parce que j'en avais un petit peu marre du rhum.
La caipi pour les intimes.
La caipi, bien sûr. Fais-moi une caipi.
Ça c'est moi qui dis ça.
Mets-moi des cacahuètes.
Les abréviations, c'est moi.
Ah mais bon, écoute, j'étais plus rapide. T'as 43 ans, c'est pas aussi vite.
Ouais, voilà. C'est des choses qu'on connaît bien, donc les mojitos, tout ça, etc. Havana Club aussi, en grande marque, qui est une fusion avec le gouvernement cubain et Pernod Ricard. Havana.
C'est quand même beau des communistes qui fusionnent avec une multinationale.
Avec Pernod Ricard.
Ouais, mais tu sais, l'argent, ça fait tout oublier. Comme le rhum quand t'as le mal de mer.
Et je trouve ça fou parce qu'il y a énormément de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de variétés. Alors, on a des variétés de cannes maintenant qui sont mises en avant. Donc, les cannes bleues, les cannes rouges. Et on a même des cannes expérimentales avec des noms à coucher dehors, comme sur les houblons avec les HBC, etc. Donc, on a vraiment des choses. Très particulières qui sortent.
Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolution dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, le rhum agricole, rhum de mélasse, machin et tout, on commence à avoir maintenant, et souvent il y a beaucoup de mélanges,
Oui.
On n'a pas forcément de millésime.
Non.
Tu mélanges.
Exactement.
tu mélanges qui te reste et puis tu envoies. On commence aussi à avoir un travail par rapport à des comment on appelle ça, des parcelles.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Ah, pardon, les, je spoil.
Donc, bah non, mais du coup, ouais, on a les rhums parcellaires. Voilà.
Voilà.
Donc,
ça c'est le
avec
le...
une seule et même unique variété de canne qui pousse dans les mêmes conditions climatologiques et puis voilà, météorologiques. Et...
Alors que pendant 600 ans, voilà, on a vu du mélange.
Et c'est ça.
Là, on commence voilà à avoir vraiment des particularités, à se rapprocher un petit peu plus de ce qui se fait du vin.
Ouais.
Voilà. Et sachant que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a quand même pas mal de maisons françaises à qui appartiennent les marques de
oui.
rhum aussi,
oui.
Qu'ils les importent, ils les font vieillir dans
oui.
des fûts de Bordeaux,
oui. de Bourgogne
blanc. Et voilà. Et d'ailleurs, Bordeaux a quand même été un bon point, un bon port d'arrivée du rhum en France.
Oui, avec l'histoire de l'esclavage, c'était même le premier port d'Europe pendant très longtemps. Oui.
Au niveau du rhum.
Oui, oui, ben, oui, le rhum venait des îles, les esclaves aussi. Les enfin, voilà, c'était le triangle.
Oui, ouais, c'était le mauvais triangle. Donc ouais, on voilà.
Et d'où l'histoire des cannelés, blablabla, blablabla.
Donc on... alors ça, je n'ai pas, mais tu nous feras une chronique là-dessus, ouais.
Bah, parce que les cannelés, il y a du rhum dedans.
Oui, tout à oui. fait.
Et donc c'est les bonnes sœurs, en fait, elles récupéraient.
Non, mais tu ferais une chronique.
Ah, je ferais une chronique.
Mais non, vas-y, sors ton histoire. Mais... On est
sinon, on va nous refaire une chronique musique.
Non, je fais une chronique très courte.
On filtre. Le message.
Sachant qu'on lui laisse à chaque fois la moitié de l'émission.
Non, mais si on est d'accord. Pour une piquette du Bordelais.
On est d'accord. Dans le Bordelais, ils filtrent le vin avec du blanc d'œuf.
Ok.
Et pas que dans le Bordelais, d'ailleurs.
Il faut pas le dire.
Ouais, oui, pas tout le temps, mais oui.
Enfin, ça s'est fait beaucoup, en tout cas.
Ouais.
Et donc, il mettait du vin blanc, il mettait des blancs d'œufs dans le vin et ça filtrait, ça, les particules venaient se prendre dans le blanc des œufs. Il savait pas quoi faire des jaunes d'œufs. Et donc, les bonnes sœurs récupéraient les jaunes d'œufs, récupéraient une petite bouteille de rhum et faisaient des cannelés pour donner aux gens qui ne pouvaient pas manger.
Voilà. Ah, et souvent, il n'y avait pas assez de... C'était toujours liquide parce qu'il y avait trop de rhum.
Mais bon. Alors, je pense qu'elles en mettaient qu'un tout petit peu, pas plus, que pour le coup, le rhum, je pense qu'elles devaient l'acheter. Mais en fait, voilà, il y avait tellement de jaunes d'œufs qui se jetaient parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire tellement ils en avaient, que les bonnes sœurs les utilisaient et ont décidé d'en faire une pâtisserie. Voilà.
Ok, mais merci Lionel pour
ta. Et je vais vous passer une musique pour la peine.
Donc, ouais, on se retrouve du coup avec des choses très nichées. Du coup, voilà, comme je disais, canne bleue, parcellaire. Voilà, donc c'est super intéressant. On en a goûté un l'autre soir, l'abeille qui est en parcellaire, du coup, aussi. Qui est, la bouteille est restée chez toi. Qui est, on voit bien quand même.
Il y a un message, apparemment.
Non,
hier passion, on a rebu, j'en ai encore.
Ah non, vraiment top. Et,
il est très très bon.
On voit vraiment qu'il y a un gros boulot qui est fait quand même dessus. Vraiment, on est vraiment sur quelque chose de qualité, quoi. Moi, j'ai eu des souvenirs de très mauvais alcools sur le rhum, notamment les rhums épicés aussi. On a plein de variantes. Et aussi, maintenant, on a toute une histoire de barriquage. Donc, on utilise forcément, comme pour la bière, comme pour le whisky, des barriques de bourbon, des barriques de vin. Enfin, voilà, c'est très poussé. Donc, voilà.
Très bien.
Ouais, c'est super complet. Et on pourra en faire une autre chronique, parce qu'en fait, j'avais encore plein de trucs. Mais
garde-en sous la main. Ouais, ouais.
Alors, je peux t'aider pour finir. Le Père Labatte. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait du 59 degrés. Eh ben, ils ont le brut de colonne Perlabatte est à 70 degrés 7.
Ah ouais, donc ouais, il est sorti en.
Alors, moi je dirais, j'ai une question, c'est pourquoi ? Qui boit ça ?
Je pense
c'est comme l'absinthe. Pourquoi tu bois de l'absinthe ?
Bon. Ouais, mais sauf que l'absinthe, tu mets un fond d'eau avec.
C'est pour ça qu'on a eu la dernière fois.
Un litre de jus d'orange.
Le rhum à 77 là.
C'est fort quand même.
Excuse-moi.
Tu le mets dans ta mobilette.
On a tous goûté. Moi j'ai goûté un calva de ferme qui est à peu près à 70 là. Celui qui est fait. Tiens, j'ai fait un calva machin. Le truc où c'est imbuvable.
Bah oui.
Là celui-là il s'achète. Hein. 77. Ouais. Le brut de colonne
Perlabatte. C'est commercialisable en France ça à 77.
Regarde, la maison du whisky le vend.
Ouais, d'accord.
Je suis sur le site de la maison du whisky. Donc voilà. Donc si quelqu'un l'a déjà bu,
les trois quarts de taxe.
Ouais. Moi je prends. Ouais, faites-nous un retour. J'aimerais bien savoir. Pourquoi t'achètes ça.
Que les gens peuvent pas. Ouais.
Me dis pas que c'est pour faire des gâteaux, parce que là.
puis même en arrangé, bien dosé avec du sucre.
Mais non, tout,
non.
Ça rend blanc celui-là. Donc voilà. Le Labatte brut de colonne. C'est pour finir ta petite chronique.
Ouais,
qui était magnifique.
Très bien. Il est 21h40. Seb, tu as quelque chose ?
Oui,
tu es prêt ?
Je peux dire quelque chose.
Vu que j'ai passé beaucoup de musique, je te propose qu'on passe tout de suite à la chronique.
Je vais avoir la moitié de l'émission comme d'habitude, puisque je t'entends. Alors que je me chronomètre.
Tu peux passer une musique ?
Tu peux passer une musique si tu veux.
Juste maintenant, vite fait.
Mais je ne sais pas quel morceau.
Mais si, je t'ai dit, mais c'est pour ça que je.
Ah oui, d'accord.
Je te donne les. C'est ma dédicace à tous les Français à Roland Garros.
Tu peux en dire plus. Si
ouais, puisque le tennis m'insupporte au possible et qu'on est tous persuadés qu'ils vont gagner Roland Garros, alors que ça y est, faut, c'est comme la musique dont tu as parlé au début.
Je sais pas si tu as rencontré quelqu'un de persuadé, mais.
Non, mais les commentateurs. Faut quand même se dire qu'à Roland Garros, c'est des Français qu'on a connus il y a 20 ans, qui jouent encore et qui se font toujours éliminer. Donc ça sert à quoi
c'est croire. Comme moi avec les comptes de musique.
Exactement, c'est ce que je disais. Et donc là, pour eux, j'ai envie de leur dédicacer ce petit morceau d'un groupe que ça. Je sais pas, est-ce qu'ils tournent encore? Est-ce qu'ils font encore un truc? Je sais même pas, je me suis pas renseigné. House de Raquette.
Ah,
bien,
oui.
C'est pour vous, les amis. C'est extrait du premier album de House de Raquette. Ça date un petit peu. Mais c'est vraiment pour les nos chers tennisman et tenniswoman, parce qu'ils sont tous pareils. Et il y a qu'en double, des fois on y arrive, mais là, ça, c'est pour tous les autres. Tous les sportifs et sportives françaises, français et françaises, eh bien écoutez, c'est pas grave, on fera quatrième, c'est les JO qui arrivent, mais vous êtes des champions. Fini We Are The Champions, on passera ça pour les Français qui, bah, qui font rien mais qui sont au sport.
C'est le principal. Au moins, ils auront de l'entrain. House de Raquettes, extrait de leur album sorti en 2008. C'est leur premier album qui s'appelait 40 Love. Et dans cet album, il y a quand même le Oh Yeah, qui était le jingle de la Miss Météo de Canal.
Rien que ça.
C'est Louise Bourouin.
D'accord. Ouais.
Oui. Ça date déjà. Okay.
Vous l'avez celui-là? Bah, il y a deux minutes.
Oui.
Voilà, c'était mon petit hommage aux sportifs français. Et aux tennisman surtout, parce que. Ouh!
Je dis ça parce que Toulouse a gagné ce week-end.
Ah, ça, par contre, eux, ils ont le droit à We Are the Champions, par contre. Et le match, c'était mérité.
Et nous, on a le droit à ça, nous.
Le vin, c'est bien. Le vin, c'est bon. Le vin, c'est mon copain. C'est ma passion.
Donc, je vais faire une chronique très courte ce soir, puisque je suis endeuillé de savoir qu'elle dure 30 minutes et non entre 12 et 15, comme je vise à chaque fois.
Exactement.
Bon, alors, de toute façon, je vous avais dit que je vous parlerais d'un vigneron, mais ça ne sera pas cette semaine, ça ne sera pas celle d'après, ça sera peut-être pour notre dernière de Steak Patate cette année, on verra. Mais je veux vraiment bien préparer cette chronique. Mais aujourd'hui, alors, il m'est venu une idée en lisant un article suggéré par Google, hein, donc tu nous expliqueras ça un jour, Lionel.
L'algo, ouais.
Ouais, voilà. Donc bon, un article du Figaro en l'occurrence, alors je ne lis pas couramment le Figaro.
Figaro 20
Là c'était le Figaro 20, ouais, tout à fait.
Mais qui se défend pas mal quand même.
Alors pour moi je le trouve très bien objectivement, parce non, que mais le vin c'est apolitique. Hein,
et ils ont recruté aussi des personnes au niveau de la bière, donc quelqu'un que je suivais avant. Et,
d'accord.
Et non, je trouve ça plutôt bien équipé, plutôt intéressant.
Là il parle de vin abordable par tout le monde, c'est-à-dire le Bourgogne notamment. Donc non, ils interviewent, alors je cite, hein, le célèbre biologiste Marc-André Sellos.
Ah oui, j'ai tous ces livres.
Ouais, voilà. Alors,
et bon, c'était long, mais c'était chouette.
Bon, alors, moi, je suis un peu dans l'écologie et la biologie, vous le savez. Je le connaissais pas.
Ah, et bah, tu vois, j'aurais dit que je l'ai passé.
C'est une faute de culture. En fait, il est très connu, effectivement. Et c'est notamment un mycologue, donc qui étudie les champignons et le pilat botanique. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les sujets des végétaux et de la vigne.
Alors, Lionel a tous ses livres sur les champignons.
C'est vrai? Oui.
C'est sur les levures.
Un mycologue en dormance. Bon, alors il interview et ils lui disent, ben on a quand même un problème avec la viticulture, c'est la crise et on a autre chose, Lionel.
Le changement climatique.
Exactement. ils disent à Marc-André Sellos, mais que faire? Et donc lui, alors il a une vraie analyse, c'est un discours qui est très scientifique. Je trouve ça bien parce qu'il a des, voilà, il argumente vraiment, il est pas dans le catastrophisme, il dit juste. Moi, ma position, c'est de trouver des solutions pour les problèmes qui vont arriver. Et pour le moment, tout ce qu'on avait prévu il y a 10-15 ans, c'est en train de se passer maintenant, et ainsi de suite. Quoi. Bon, donc ils ne se plantent pas beaucoup. Et donc dedans, la phrase choc qui est retenue, c'est « Mais pourra-t-on faire du pinot noir en Bourgogne ?» Le pinot noir, c'est le cépage emblématique de la Bourgogne, qui a fait aussi connaître les vins français dans le monde au même titre que le Bordeaux. Donc c'est, voilà, ça fait mal.
Et toi particulièrement ?
Comment ?
Et à toi particulièrement.
Alors, le pinot noir me fera moins mal que si le chardonnay ne poussait plus en Bourgogne. Bon, voilà, ouais, parce que moi je suis quand même plus sur les blancs. C'est pas que j'aime pas les rouges je les adore, mais il y a juste qu'ils font un trou dans mon portefeuille. Voilà, donc je le fais de temps en temps quand je suis avec l'abeille et qu'on est au 10e stand, mais faut être au 10e.
C'est ça.
Hein, voilà.
Sachant que c'est lui qui fait un trou dans son portefeuille et moi qui profite. Mais j'aime bien, hein, on continuera. Hein.
Voilà, mais bon, je récompense parfois avec une bonne bouteille de Bourgogne quand elle n'est pas. Bouchonné au Nouvel An, voilà.
La fameuse.
Ce fameux pommard que j'avais payé blinde et qui était bouchonné. Ouais. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour, mais donc il nous parle de tout ce que je vous ai déjà dit sur le changement climatique, c'est-à-dire le développement des pathogènes, parce que on a de la pluie quand il faut pas, notamment
des pathogènes. Je connais pas la recette. Ouais. C'est quoi le gène?
On la postera sur la
page. Tu es déchaîné sur cette fin d'émission.
Les cadeaux.
En fait, je te demande de faire à chaque fois parce que tu fais tes interventions, je pense.
Ouais,
hein.
C'est ça. J'ai jamais fait ça.
Bon, en tout cas, donc beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur qui favorise aussi les champignons.
Je vois pas, non.
Non, il va pas pleuvoir jusqu'au vendredi, je vous verrai. Et donc il dit, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors lui, ce qu'il dit, bon, il y a une chose qui est possible, c'est de changer l'encépagement, c'est-à-dire changer les cépages qui sont l'emblème en fait des régions. Alors là, c'est très dur, hein, parce qu'on passe le côté psychologique, l'identité des vins, les cahiers des charges qui sont quand même figés pour certains depuis des années. Donc ça veut dire, vous faites plus de Cabernet Sauvignon en Médoc, plus de Pinot Noir en Bourgogne. Et pour autant, il reprend un historique en montrant bien que il y a toujours eu du vin dans ces régions, ça a été fait par les Romains notamment, que le Bourgogne, à un moment, il s'est fait ce qu'on appelle l'Auvernat, qui est un cépage qui est en fait le Pinot Noir. Ils appelaient ça l'Auvernat parce que ça se faisait en Auvergne, donc ils ont réussi à faire du vin. Il y a eu des adaptations suivant les climats avec ces vins. Je vais m'arrêter juste sur une région en particulier, puisque sinon je vais durer trop longtemps, notamment sur les Côtes-du-Rhône. Les Côtes-du-Rhône, c'est les plus menacées. Alors, au même titre que le Languedoc-Roussillon, mais souvenez-vous, je vous en ai parlé, le Languedoc, eux, ils ont eu la chance d'être très médiocres au départ et de se professionnaliser. Mais comme ils se sont professionnalisés, qu'ils avaient des cahiers des charges faibles, ils ont réussi à s'adapter avec leurs cépages et à faire de la diversité. Donc, il y a des vins qui sont vraiment pas mal en Côte-du-Roussillon, tout le long du Languedoc. Mais par contre, les Côtes-du-Rhône, on rentre quand même dans des appellations comme Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph, Condrieu. Ouais. Là, on est dans le top du top, dans des vins qui sont exceptionnels et où on retrouve, sur les rouges, en tout cas, quatre cépages que vous connaissez par cœur.
Oui. La Syrah,
Grenache,
Mourvèdre,
et le petit dernier qui est
Carignan.
En 100% les Carignans, moi j'adore. Voilà. Et après souvent ils en mettent 10% un petit peu pour compléter. Voilà. C'est très rond, très fruité. Et donc ces quatre cépages en fait vont être menacés. Il y en a un qui va être très menacé, c'est le Grenache. Et le Grenache, c'est quand même un petit peu ce qui a toujours donné le côté très fruité, aromatique des vins des Côtes-du-Rhône. Et donc, c'est un cépage qui, il faut du soleil, hein. Ça, c'est comme un peu toutes les vignes au moment des vendanges. Par contre, il souffre complètement de la chaleur extrême et les grappes de raisin se dessèchent. Et donc là, vous pouvez pas faire du bon vin avec des grappes de vin desséchées. Le Mourvèdre, c'est un peu le même topo. S'il fait trop chaud, les raisins vont mûrir trop rapidement. Et en fait, pour que ça corresponde aux vendanges avec les autres cépages lors des assemblages, on va se retrouver avec des vins qui vont être trop mûrs. Donc le fruit est trop mûr et le vin a un goût surmûri, ce qu'on appelle. Mmh. Autant sur des blancs, ça rend des choses pas mal. Ouais, autant sur des rouges, sauf si vous voulez vraiment faire ça, c'est pas terrible. Voilà.
Alors moi, j'ai une question. Il y a les cépages, mais il y a aussi il y a les levures. Pour le coup, sur le vin, on utilise plutôt les levures qui sont présentes naturellement. Mais est-ce que les levures pourraient être un levier ? On les a utilisées à une époque pour faire du Beaujolais nouveau. Est-ce que demain, je sais pas, peut-être que l'apport de levures pourra aider ? C'est-à-dire qu'un changement de cépage, mais avec des levures, je sais pas, où les mecs ils vont aller chercher des levures sur des plantes pinot noir qui pousseront demain en Angleterre.
Il ne parle pas, alors il cite de très bons exemples.
Il y a des possibilités. Ouais. Un peu plus...
ce qui va se faire, certainement, et ce qui devrait se faire, c'est un peu. Enfin, il cite pas ce cas-là, mais je pense qu'il y pense dans l'interview. Il dit il y a eu l'historique quand même de la Californie, où on a implanté du vin là-bas avec. Ils appelaient le French, c'était le Pinot Noir, justement, c'était le Bourguignon. Et à l'inverse, nous, pendant la crise du Phylloxera, dont je vous ai déjà parlé, on allait rechercher les cépages et on a fait de l'hybridation. Vous avez le Cabernet Sauvignon, qui est quand même emblématique. En fait, ce sont des graines, des pépins de vigne qui ont été implantés, qui ont poussé naturellement à l'état sauvage et qui ensuite se sont développés petit à petit. On en a fait des vraies vignes. Voilà, donc il faudra de toute façon une sélection des cépages résistants. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un pinot noir qui s'est adapté dans un pays qui est devenu très résistant et qui peut, pourquoi pas, être hybridé avec du pinot noir français ou qui peut tout simplement être implanté. Donc il y aura peut-être ça qui sera amené. Pour autant, ce qu'il dit aussi, c'est que...
Des cépages, il y en a une quarantaine ou une vingtaine de très connus, on va dire.
En France, on a 10 dominants, on en a 30 beaucoup utilisés et on en a jusqu'à 400 qui existent France.
400 en France. Sachant quand même que le pied de vigne, c'est quand même une plante qui est plutôt européenne, historiquement.
Non, je crois pas. Non,
le crois.
Le berceau des pieds de vigne.
Je crois et
parce que j'en ai parlé à quelqu'un. Ça dépend où tu mets l'est de la Géorgie parce qu'on est à la limite de l'Asie. Les premières vignes au monde, et je l'ai vérifié en parlant avec le vigneron dont je parlerai la prochaine fois, parce que lui il est pépiniériste aussi, c'est la Géorgie où il y avait plus de 2000 cépages. Voilà.
Ok.
D'accord. Voilà.
Bon, je m'incline.
Je vous parle des autres solutions parce qu'on va passer la dernière musique dans pas longtemps, je pense. Il y en a certains qui pensent à l'irrigation, c'est-à-dire soutenir avec de l'eau les vignes. Je pense que c'est une fuite en avant. Moi, je n'y crois pas du tout. Après, quand je suis vigneron, que j'ai mon exploitation et que je suis à 30 ans de la retraite, je ne critique pas. Voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire que vous allez dans les Pyrénées-Atlantiques, maintenant, irriguer ne pourront plus. Pourra-t-on irriguer dans des endroits où on est plutôt sur des terres sèches, parce que globalement, on ne fait pas pousser la vigne dans l'eau. Je ne suis pas certain non plus. Et il y en a d'autres encore qui disent la biodynamie, c'est la solution à tout ça. La vigne s'adapte et résiste. Et dans son interview, Marc Andreselos, il dit mais il se fait des choses exceptionnelles sur ça. Mais pour autant, on se retrouve aussi avec pas mal de casse au niveau des vins, avec des goûts qui sont très aléatoires parfois. Donc, il n'y a pas de méthode parfaite. Donc, ce qu'il faut, c'est de l'anticipation. Il faut de la préparation psychologique, c'est-à-dire que ben, va falloir peut-être se dire que dans 30 ou 40 ans, on ne boira plus des Merlots en Saint-Émilion et du Cabernet Sauvignon Médoc ou du Pinot Noir en Bourgogne,
mais, côté,
mais qu'on aura un nouveau cépage.
Est-ce qu'on boit aujourd'hui le Bourgogne qui se buvait il y a 50 ans ?
Non. Non. Non, mais quand même du Pinot Noir. Alors, tu peux le travailler de plein de manières, ça reste du Pinot Noir. Hein.
Oui. Bon, d'accord. Ouais. Très bien.
Voilà pour moi.
Pardon, excusez-moi. Très bien, bravo, félicitations, 10 minutes.
Ben, ouais. Je ferai en sorte que ça se passe comme ça à chaque fois.
15, c'est bien, il n'y a pas de souci. Et puis, petite taquinette, ça fait du bien aussi de temps en temps.
Ouais, ouais. Je bois ça.
On retrouvera toutes les infos sur le site de la radio urban-radio.com. Vous allez dans programme et vous allez cliquer sur Steak Patate. On est également présent sur les réseaux sociaux, alors principalement sur Steak Patate. Si vous voulez nous envoyer des messages et des cœurs, n'hésitez pas. Et des invitations à venir goûter vos produits aussi. On peut répondre présent. La semaine prochaine, on va nous inviter. On les dévoilera que la semaine prochaine.
Ah bon ?
Exactement, oui.
D'accord.
Voilà.
C'est original.
Bah c'est comme ça qu'on comme ça chaque fois.
Ah oui, c'est vrai, de dévoiler les invités le soir de l'émission, c'est vrai que c'est original.
Bah oui. Il est en forme ce soir.
Il est bien.
Il est pas mal. On est également présent sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. Voilà, vous pouvez aussi aller vous abonner dessus, nous écouter, nous partager sur les réseaux. Voilà, que dire de plus ?
Quel est l'âge de Lionel?
44. Vous le saurez en écoutant ce podcast. Voilà. Merci à vous. On se quitte avec le morceau qui fait pleurer les bonhommes.
Oui, et ben c'est bien. J'ai un petit peu de temps pour en parler. C'est le premier extrait du premier album d'une artiste qui s'appelle Zine, Z-I-N-E-E, qui est une rappeuse toulousaine. Et c'est pourtant, tu vois, tu parlais des trucs qu'on n'écoute plus, qu'on découvre plus. Et
je parlais pour moi.
Ouais, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est intéressant. C'était justement très bien de dire ça. C'est chouette. C'est que c'est un style que je n'écoute pas. Et pourtant, cet album, j'ai eu un espèce de coup de cœur de fou pour Zine. L'album s'appelle Osmin. Il est chez Yotanka. Et voilà, bah, Zine, ça s'appelle Lionel, t'as le titre.
La Reine et la Lune.
La Reine et la Lune.
Et le titre est très très court.
Très joli, ouais. Ouais, c'est vrai. On est dans... Ouais, je vais être...
Ouais, je peux encore broder, alors. Tu peux nous dire si t'as un concert à aller voir, un album à aller acheter.
Ouais, demain soir, Gallo Street. Oui, qui aime.
C'est vrai. Pour ceux qui aiment...
Gallo Street, Atomic Brass Band et Atomic Brass Band. Dans le club. Bah, tant qu'à faire, autant aller au plus récent, bah, c'est ça.
Voilà.
Faut aller voir ça. Et puis ce week-end, n'oubliez pas, il y a quand même quoi ? Il y a Ramène ton flow aux achats.
Exact.
Avec Sniper et Fanny Poly.
Donc Sniper, pareil, hein, c'était il y a 20 ans.
Ça c'est pour JB.
J'étais au collège, c'est ça.
J'écoutais pas.
C'était en 2006, je pense.
Si moi j'étais au collège, ça s'écoutait toujours très bien, Sniper.
Oui, mais c'était déjà sorti depuis quelques temps.
Non, c'était au lycée.
Non, pas dit.
Pas tant que ça.
Bon, c'était 2004. Allez, je mets 2004.
En tout cas, c'est le festival Ramène ton flow, deuxième édition aux Achars samedi. Voilà, on avait reçu Thomas l'année dernière pour en parler. Et là, j'imagine que tu es en train de tailler des branches, monter des planches pour le mur de Graff, il y a du breakdance, il y a tout plein de choses.
Ça commence à 15h.
Et voilà, let's go, on se quitte là-dessus. Ciao, ciao, les bonhommes.
Ciné.
Ciao.
Et go.
Let's go. Les oreilles.